Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Son nouveau livre est sans doute d'abord le destin d'une femme. Une femme hors du commun, intellectuelle, poétesse, prostituée et farouchement indépendante, morte dans le naufrage du Diola en septembre 2002. Mais c'est aussi un vibrant hommage à la poésie, à la littérature et une fresque pleine d'ironie du Sénégal, notamment à travers sa classe politique et médiatique. C'est enfin, et peut-être surtout, un éloge de la langue Wolof, langue dans laquelle écrit désormais l'auteur. Boubacar Boris Diop est avec nous. Un tombeau pour Kinégadjo vient de sortir en France et en français dans une traduction de l'auteur aux éditions Philippe Ray. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Boubacar Boris Diop.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. À la jeunesse de votre récit, il y a cet événement dont tout le Sénégal se souvient encore aujourd'hui comme si c'était hier. Événement survenu le 26 septembre 2002.
Tragique naufrage du Diola au Sénégal. Ce ferry qui assure la liaison entre Dakar et Ziguinchor en Casamance a chaviré dans la tempête au large de la Gambie dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y avait quelques 800 personnes à bord. Il n'y a pour le moment que 70 rescapés. Une cinquantaine de corps ont pu être repêchés. Donc près de 700 disparus. L'un de nos confrères de Sud Radio a pu recueillir en Gambie ce témoignage d'un Français qui était à bord du Diola.
Juste à la fin du film que nous regardions, l'orage s'est accentué un peu et le vent a poussé du côté où nous avions notre cabine. On voyait vraiment le vent très fort et le bateau a basculé, le bateau s'est levé et a basculé pratiquement en deux minutes. Ça a été effectué hein, pratiquement. En deux minutes, on a juste eu le temps de sortir par la fenêtre et de sauter et le bateau était retourné.
Ce bateau qui est resté partiellement émergé, retourné, certains des rescapés racontent qu'ils ont pu entendre des survivants dans la coque qui appelait au secours. Ce rescapé français, lui, a pu être sauvé par une pirogue. Et ensuite, il a été emmené en Gambie par un chalutier. Les opérations de secours se poursuivent d'ailleurs, toujours avec l'aide des autorités gambiennes et aussi de l'armée française. C'est une véritable tragédie. Le Sénégal a décrété 3 jours de deuil national. Et on peut s'attendre aussi à ce que se développe une polémique dans les jours qui viennent, car l'état du bateau était régulièrement mis en cause, de même que son éventuelle surcharge.
Et le bilan officiel, Boubacar Boris Diop, fera état de 1863 morts, mais les associations de familles de victimes estiment que plus de 2000 personnes ont péri dans cette catastrophe. Vous vous souvenez très précisément aujourd'hui de la façon dont vous avez réagi à ce moment-là?
Oui, en fait, le Sénégal s'en souvient du Diola, comme vous l'avez dit, mais peut-être pas assez à mon gré et pas assez fort. L'anniversaire de l'événement n'est jamais sérieusement marqué. La coque du navire est au large, renversée, avec des centaines de corps à l'intérieur, mais depuis 22 ans. Eh bien, moi, c'est un événement qui m'a touché de près, parce que j'avais quand même chez moi un jeune étudiant, qui était dans la maison, qui était parti en vacances. Il m'appelle le jeudi pour me dire qu'il prenait le bateau dans la soirée. Bon, OK, à demain. Mais en fait, c'était à jamais, parce que c'était notre dernière conversation. Il s'appelait Hyacinthe Diatta. Et donc, il est mort en même temps que son frère, d'ailleurs, Édouard. C'était donc quelque chose qui me touchait de près. En plus, comme tous les autres Sénégalais, qu'ils aient eu ou non des... victimes dans ce naufrage, des parents victimes de ce naufrage, eh bien, 1800 morts, près de 2000, il n'y a jamais eu dans l'histoire du Sénégal un événement comparable. Rien n'a jamais été aussi tragique.
L'un des personnages de votre roman, qui s'appelle Bart, c'est le mari de la narratrice principale, dit que l'épave du Diola est le tombeau de toute la nation sénégalaise. Autrement dit, c'est un naufrage politique. On peut dire que ce 26 septembre 2002, c'est le Sénégal qui a coulé ?
Exactement, mais très exactement, parce que le titre du livre en Wolof, c'est Bamelu Koch Barma. Pourquoi Koch Barma ? Parce que Koch Barma, c'est le symbole du Sénégal, de la langue Wolof, de l'identité sénégalaise. Et donc, oui, au fond, c'est la nation qui a coulé. Voilà, c'est le tombeau de toute une nation. Ce que Barthes dit, c'est exactement ce que j'ai voulu faire passer comme message.
Qu'est-ce qui a changé ce jour-là, Boubacar Boris Diop?
Mais j'ai bien peur que rien n'a changé, en fait.
On n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé.
Non, on n'a pas tiré les leçons. Rien n'a changé, en ce sens que, comme on le voit dans le roman, les politiciens se sont mis à jouer leur petit cinéma. On s'est réciproquement accusé. Tout le monde a pointé un doigt accusateur sur le gouvernement, sur le régime d'Ablaï Wade, et lui, au lieu de faire amende honorable, de dire que mes ministres, les responsables ont mal travaillé, ils vont rendre compte. Non. Il a désigné un ennemi abstrait qui est le peuple sénégalais. Il a dit, vous, les Sénégalais, vous êtes responsables. Ça veut dire que personne n'est responsable.
Et donc, de ce drame, Boubacar Boris Diop, vous avez fait un roman. Vous avez donc intériorisé, en quelque sorte, cette tragédie pour en faire le point de départ et même la pierre angulaire de votre récit. Alors, vous racontez le naufrage, vous évoquez la douleur des familles des victimes, les recherches. On ne sait pas trop, dans ce genre de cas, s'il y en a quelqu'un de sa famille qui est rescapé ou non. On examine les corps. Enfin, il y a des scènes très, très dures que vous reprenez dans ce roman. Les interrogations, les polémiques, on vient d'en dire un mot avec vous. Votre démarche d'écrivain, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Est-ce que vous avez voulu prendre du recul par rapport à ces événements, ou au contraire, est-ce que vous avez voulu coller au plus près de ce qui s'est passé, de ces faits historiques?
Voilà, les recherches de... on ne recherchait pas des rescapés. En fait, la mort avait... la mère avait plutôt refoulé quelques corps, et puis, les familles essayaient de voir ces corps avaient été photographiés, de reconnaître un des leurs, pour le récupérer de la morgue et lui donner une sépulture digne, quoi. En fait, j'ai voulu prendre du recul parce que, et ça je l'ai fait, je suis allé chercher Nicolas, Édouard et Hyacinthe, là, parmi ces corps-là, comme on le voit dans le roman avec Ngiembé Paye et Barthes. Non, ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, très rapidement après la tragédie, j'ai fait un article. Un article.
C'est le journaliste qui a parlé.
C'est le journaliste qui a parlé. J'ai pris du recul. Texte intitulé « Lettre à un ami sur le naufrage du Djola ». Mais en même temps, c'était le roman qui arrivait, quoi. Voilà.
Alors, dans le roman, il y a aussi, non pas un, mais une journaliste. C'est votre narratrice principale qui s'appelle Ngiembé Paye et qui dresse un tombeau à Kinégadjo, qui est donc l'une des victimes de ce naufrage. Elle dresse un tombeau littéraire, un tombeau romanesque aussi, pour une écrivaine et pour une poétesse. Alors, on le disait, vous êtes journaliste, vous aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de Boubacar Boris Diop dans le personnage de votre narratrice, Ngiembé Paye?
Elle est je suis journaliste comme elle. Et il se trouve d'ailleurs que nous avons fait nos études, si je puis dire, dans la même école de journalisme qui est le CESTI, qu'on connaît certainement bien ici à RFI. Quand elle parle, forcément, c'est l'auteur qui parle un peu. Moi, je suis journaliste de métier, pas juste un écrivain plus ou moins égaré dans le journalisme, non. J'ai eu une réelle formation, j'ai même dirigé un journal privé à Dakar. Oui, Ngiembé Paye, c'est moi, quelque part.
Et donc, c'est Ngiembé Paye qui, dans la première partie du livre, raconte le destin de Kinégadjo. À partir de quel matériau est-ce que vous avez façonné ce personnage?
D'abord, à partir de mon imagination. Un écrivain brosse à grands traits. En fait, on aurait pu avoir la situation inverse. Kinégadjo, journaliste, et Ngiembé Paye, écrivain. Voilà, mais j'ai préféré vraiment concentrer sur Kinégadjo, la fonction créatrice, parce qu'elle devait vraiment symboliser toutes les victimes du Djola. Et c'était le visage humain, sympathique, la personne pour qui on a de la compassion. Et ça rendait vraiment le drame plus vivant. Chacun pouvait le vivre à sa manière, de façon plus personnelle.
Il fallait que ce symbole, que cette allégorie, que cette figure de proue qu'est Kinegadjo soit une romancière, ben une écrivaine, une poétesse.
Oui, que ça puisse être inscrit dans la mémoire des lecteurs.
Voilà, vous lui inventez d'ailleurs un destin national et même un destin international, hein, puisqu'on dit que le Sénégal, c'est le pays de Kinegadjo et de Léopold Sédar Senghor. Voilà. Excusez du peu.
Et du peu, mais je l'ai lu réellement. En fait, une fois, c'est intéressant l'anecdote, des profs américains sont venus qui enseignent la littérature africaine aux États-Unis. Tiens, on va visiter le Sénégal, il y a beaucoup d'écrivains. Là-bas, on va leur parler. Et moi, j'ai été invité, j'ai reçu le prospectus, et cette phrase m'a réellement frappé. Alors, on présentait le Sénégal à ces universitaires américains comme le pays de Léopold Sédar Senghor et de Maria Amaba. Et là, bon, évidemment, moi, j'ai mis Kinegadjo, quoi, à la place de Maria Amaba.
Alors, Kinegadjo et Djembe Paye se connaissaient bien. Elle était tout pour moi, écrit votre narratrice. Ce sont des amies d'enfance. Elles ont grandi ensemble dans le même quartier. Djembe Paye dit que Kinegadjo était sa plus que sœur. Elle écrit un peu moins de 20 ans après le drame, hein, et elle se souvient et elle partage au lecteur ses souvenirs. D'ailleurs, Kinegadjo elle-même disait qu'écrire, ce n'est pas une affaire d'intelligence ni d'érudition, mais ce qui est essentiel, dit-elle dans le livre, c'est de savoir se souvenir. C'est une conviction que vous faites vôtre, Boubacar Boris Diop ?
Profondément. D'ailleurs, mon deuxième roman s'intitule « Les tambours de la mémoire », d'où l'idée de souvenir. Un autre de mes romans, « Morambi, le livre des ossements », ça a été écrit dans le cadre d'un projet intitulé « Rwanda, écrit par devoir de mémoire ». Et je dis toujours que ce dernier roman, celui-là est un roman écrit par devoir de mémoire pour les victimes du Diola. Et souvent on parle de la langue, du roman, ça a été traduit du Wolof ou pas. Je dis ce qui est important dans ce roman, au-delà de la langue, c'est le fait qu'il parle des naufragés du Diola.
Et le souvenir est aussi l'un des moteurs de ce récit, puisque pour raconter le destin de Kinegadjo, Djembe Paye, votre narratrice, replonge dans ses notes, retrouve des manuscrits inachevés de son ami. Tout ça nourrit évidemment votre récit. Mm-hmm. Et le livre incite aussi à de très nombreuses reprises les lecteurs au souvenir, par exemple quand vous évoquez cette musique.
Love.
Ismaël Lo, évidemment, sur RFI, énorme succès hein, de 1992 que vous évoquez, Boubacar Boris Diop, dans votre roman. Rien que pour ça, merci, parce que c'est toujours un moment magique quand on entend cette chanson.
Extraordinaire. C'est-à-dire, Ismaël Lo, c'est non seulement un excellent chanteur, mais aussi une bonne personne. Et là, ce qu'on voit, c'est la façon dont il s'empare de la culture populaire. Cette chanson, elle est extrêmement populaire. Nous l'avons tous chantée étant enfant, moi-même. Mais il s'en empare et en fait quelque chose d'universel. Ça me touche autant que ça vous touche, vous, qui n'êtes pas de culture sénégalaise. Mais aussi, j'aime bien comment il donne de la dignité à la culture populaire. Ce n'est pas juste se mettre à brailler, etc. C'est fait avec beaucoup d'élégance et de classe, quoi.
Alors, pour écrire ce tombeau pour Kine Gadjo, chez Philippe Rey, on le rappelle, votre première narratrice mobilise, on le disait, ses souvenirs d'enfance, notamment sa jeunesse dans sa petite ville de Tillabéri. C'est là qu'elles ont grandi, hein, toutes les deux. Et Djemé Paye va visiter la mère et le frère de sa défunte amie, qui a été rejetée d'ailleurs par sa mère parce qu'elle a quitté le foyer. Elle s'est installée dans le quartier populaire de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, où elle a vendu son corps pour gagner sa vie. Elle venait d'un milieu très, très défavorisé. Kine Gadjo qui se demande à la page 284 « Je n'ai jamais pu répondre à cette lancinante question. Suis-je une pute qui écrit des poèmes ou juste une artiste ?» qui se prostitue. Quelle est votre réponse à vous, Boubacar Boris Diop? Pour vous, qui est Kine Gadjo?
Il se pourrait que je ne connaisse pas la réponse, en fait. Hein. Et c'est pourquoi la question est posée. Quelque part aussi, c'était une façon de dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se prostituent, hommes ou femmes d'ailleurs, sans être des prostituées. Voilà ça que je veux dire, que quelque part dans une carrière d'écrivain, dans l'écriture, le désir d'être aimé, de gagner sa vie en caressant le public dans le sens du poil, en jouant des coudes, bon, pour être celui qui a les prix littéraires, la renommée, etc. Il y a, oui, l'activité littéraire est liée à une... Oui, quelque part, ça intervient un peu. Et oui, bon, j'ai voulu aussi suggérer ça, mais extrêmement délicatement, je ne veux pas me faire des ennemis.
Bien
quoi.
Sûr.
C'est un peu ça, oui.
En tout cas, de son vivant, Kine Gadjo, c'est un personnage marginal, c'est un personnage excentrique, pas toujours apprécié, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est le prix à payer quand on veut être libre?
Ah oui, certainement. Certainement. S'il y a... S'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle d'un philosophe qui dit que pour bien penser, il faut faire comme s'il n'y a jamais eu d'autres hommes avant vous, d'autres hommes ou femmes. Ça, c'est la liberté totale. Vous savez, vous venez au monde, dès le berceau, la société se penche à vos oreilles et vous glisse ses instructions. Comment agir, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut penser, etc., etc. Vous, finalement, quand vous sortez du berceau, vous devenez adolescent, vous devenez adulte, on vous a tellement formaté que quand en réalité vous êtes l'esclave des conventions. Et donc, si vous voulez être libre, vous devez vous débarrasser de tout ça. Et ça a un coût. Hein.
Et c'est ce que fait précisément Kelly Gadio dans le roman. Voilà. Alors, vous écrivez, Boubacar Boris Diop, enfin, c'est votre narratrice hein, qui écrit, « Comme chacun sait, la vie des écrivains sur leur travail, au fond, tout le monde s'en fiche un peu. Ça, vous savez que c'est faux, puisque vous êtes ici et vous avez répondu à notre invitation. » Vous ajoutez aussi...
C'est une façon de parler.
Voilà, vous ajoutez aussi, « Je confie à mon ordinateur tout ce qui me vient du cœur ou de la tête. J'écoute ces discrets bruits intérieurs. » Et je leur donne vie. Est-ce que c'est comme ça que vous écrivez ?
Oui, surtout quand j'écris en Wolof. Parce que lorsque... c'est ça que j'ai appris en passant d'une langue à une autre. En passant d'une langue apprise à l'école, avec ses règles de grammaire, avec ses contraintes stylistiques, qui sont très dures, la langue française. Et puis maintenant, tu écris en Wolof, mais tu écris avec des mots que tu entends. Pas des mots qui sont dans le dictionnaire, mais des mots que tu entends, et au fond que tu entends depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Et dans une société comme la société sénégalaise, ça fait une différence quand même d'écrire avec le français que personne ne parle au Sénégal, ou avec le Wolof que moi j'entends tout le temps, que je parle. Je ne cesse de la parler que quand je suis avec des étrangers. Et donc, oui, il y a un surplus de poésie lorsque on écrit dans cette langue-là. Et bon, les bruits intérieurs, ça m'a aussi appris qu'en réalité, les mots d'une langue, les mots eux-mêmes, hein, qui sont dans le dictionnaire, n'épuisent pas le sens, quoi. Que le sens aussi, c'est dans les vibrations, comment ça bourdonne, voilà, et des codes, quoi, des codes tout à fait secrets. Et c'est, oui, allez-y.
Nous sommes à la page 106 de votre roman, et Djemé Paye se souvient, en français, hein, puisque nous avons évidemment pris le texte de la traduction française, mais c'est la vôtre, et on va y revenir dans un instant, Boubacar Boris Diop, elle se souvient en français de la relation complexe qu'il y avait entre Kine Gadio et sa mère, qui s'appelle Yangoun.
Yangouné, oui.
Même quand nous étions enfants, elle grondait sans cesse Kine. Je dois avouer qu'avec le temps, cela avait fini par m'agacer. Elle lui reprochait d'être déjà un peu trop portée sur le sexe. Elle passe parfois la nuit chez les Bambara qui ont loué une maison près de chez nous, à son âge. Elle disait vrai. À l'époque, Kine Gadio était tombée follement amoureuse d'un chanteur malien du nom de Karamoko. L'homme, qui avait une très belle voix, se produisait lors de soirées dansantes ou en organisait lui-même à son domicile. Et Yangoun ne s'arrêtait pas là. Le directeur de son école m'a dit qu'elle était très intelligente, mais qu'elle déteste tout simplement les études. Si son père, Sile Gadjo, était encore en vie, il n'aurait pas été fier de sa fille. Et en vérité, moi, Ngonning, je ne sais pas d'où lui sont venues ses mauvaises habitudes. Car Sile Gadjo était certes un homme difficile, mais il était aussi droit et digne. Et puis, regarde les habits qu'elle porte. Une fille doit être coquette. C'est vrai, nous sommes une famille modeste, mais la pauvreté n'a jamais empêché personne de porter des habits propres et décents. Pourquoi s'habille-t-elle comme les garçons ? Cependant, Djemé, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour une chose si sérieuse que je suis sur le point de chasser Kine Gadio de cette maison. Je sais bien que de nos jours, la plupart des enfants sont mal élevés et n'en font qu'à leur tête, mais je jure qu'il n'en sera pas de même dans la maison de Sile Gadio. Ici, jamais il ne sera permis à un garçon de fumer, et encore moins à une fillette à peine venue au monde. Malgré la dureté de ses paroles, Yangoun aimait sa fille au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Elle donnait même l'impression de n'avoir que deux enfants, Kine Gadio et son frère cadet Ngandemba.
Ngandemba, le frère donc de Kine Gadio, c'est pour moi un personnage extrêmement intéressant, peut-être parce que Comme sa sœur, Boubacar Boris Diop, il s'est inventé un incroyable destin. Il est né avec la polio, boiteux, handicapé à vie, ce qui ne va pas l'empêcher de devenir un homme politique de premier plan. On peut dire qu'il a transformé son mal de vivre, qui était quand même réel au départ, en force de vie.
C'est un homme blessé aussi, parce que son père a essayé de le tuer. Mmh. Il ne faut pas l'oublier. Les Gaillot a essayé de, dans un sacrifice rituel, censé lui apporter la puissance, a essayé de le précipiter dans
un puits.
Dans un puits. Voilà, oui, c'est je pense que c'est un personnage particulier. Il est en révolte. Et sa révolte, on le verra hein, à la fin, est connectée avec la disparition de sa sœur, Kiné Gaillot, dans le naufrage du Diola. Bon, c'est un personnage un peu métaphysique, finalement.
Oui, et vous racontez qu'il s'est construit justement en étant obsédé par la mort et donc par son pendant, la survie. Il y a un passage très étonnant où il raconte comment il se nourrit de ses passages devant un cimetière. Ben voilà. Ça, c'est très étonnant.
Oui, c'est ça. C'est cette idée, ben, nous allons tous mourir. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le bien et le mal? C'est ça la question que se pose et que pose ce personnage de Ngandemba. Faire le bien, faire le mal, puisqu'on finit tous au cimetière, dans un anonymat le plus total. Il est fasciné par la mort, il est fasciné par le néant, quoi, par la disparition totale. Et bon, ben, il fait ce qu'il a à faire. C'est un personnage, oui, qui peut rappeler certains personnages de Dostoïevski, quoi. Voilà.
Et voici comment il raconte son entrée en politique. Nous sommes à la page 207 du roman.
Eh bien, c'est au départ de la course que tout s'est joué, comme toujours. Mes rivaux ont gaspillé beaucoup d'énergie à essayer de convaincre notre peuple qu'il voulait améliorer ses conditions de vie. Que de temps perdu en vaine minauderie idéologique. Moi, je n'ai jamais été stupide. Je suis entré en politique avec la conviction que rien ni personne ne pourra jamais sauver l'être humain, cet animal définitivement pris au piège de sa peur du néant. Rien, Jamais. Je n'ai jamais trouvé normal qu'on puisse promettre des lendemains meilleurs à des millions de gens. Juste comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut être vraiment sot pour ouvrir son cœur à tant d'inconnus juste parce qu'on a besoin de leur voix un quelconque dimanche de vote. Sister, quelle plus intense jubilation intérieure que de réunir tous ces crétins assoiffés de changement et de leur servir toutes sortes de boniments. Ne penses-tu pas que l'on peut éprouver un sentiment de puissance quasi mystique à dire des contre-vérités ? Et as-tu bien observé ces pauvres diables que nous appelons nos militants, qui se tuent à la tâche pour le parti ? Toujours en première ligne pour se faire faucher par la mitraille et si fiers de faire le signe de la victoire avant de pousser leur dernier soupir? Tu parles de lendemain qui chante. Jamais, penses-tu qu'ils soient normaux ceux-là? Tu ne peux pas imaginer à quel point je les méprise. Au moment même où leurs deux bras levés vers le ciel, je réponds à leur viva hystérique. Je ne me sens jamais aussi heureux de m'être échappé du troupeau que quand je les entends hurler mon nom tout en sueur. En somme, si la politique ne sait que détruire tant de vies, je me suis donné pour mission de la seconder. M'as-tu bien compris, Njemé?
Voilà, sacré personnage, sacrée personnalité. Boubacar Boris Diop. En fait, c'est un personnage très ambivalent, quoi. Il peut montrer une vraie empathie vis-à-vis des gens autour de lui, mais dans son action politique, aucune pitié.
Voilà, il faut voir comment il est avec sa mère, avec même Njemé Paille, hein. Avec Kiné Gaillot, et d'une manière générale. C'est une bonne personne, c'est une bonne âme. Mais en même temps, s'il a ce cynisme-là, c'est à cause de ses blessures existentielles, mais aussi parce qu'il est sénégalais. Nos politiciens sénégalais, nous ont pas habitués à la cruauté. Ils sont, en général, farfelu et hypocrite, quoi. La politique chez nous, c'est un jeu. C'est ça qu'il est en train de dire. Il se comporte ainsi parce qu'il est sénégalais. Il a vu à quel point, au fond, les politiciens se moquent des gens. Il a dit, mais ils se moquent des gens et ça marche très bien. C'est que les gens sont stupides. Et moi aussi, je vais me moquer des gens. Je vais faire du pognon. Et puis c'est tout. Et il réussit. On a des réussites spectaculaires, hein, comme celle de Ngannou Demba au Sénégal.
Nous sommes à 4 jours de l'élection présidentielle au Sénégal. Boubacar Boris Diop fixé à dimanche prochain après les très nombreuses péripéties de ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré sur l'état de santé et sur l'avenir démocratique de votre pays ?
Ben oui et non. En fait, depuis 3 ans, nous sommes dans une espèce dans la tourmente politique. Depuis 3 ans, il y a eu des morts. On parle entre 40 et 50 morts. Il y a eu des milliers de prisonniers politiques. Il y a eu toutes sortes de... Il y a eu, évidemment, de la torture. Parce que deux gendarmes ont disparu à jamais. Et on pense avec toutes les raisons de penser que ce sont des exécutions extrajudiciaires. Donc, de très mauvaises choses. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais à la fin, on a gagné. On a gagné contre un chef d'État qui n'avait pas prévu de quitter le pouvoir au moment où il devait rendre le tablier. Il avait décidé de rester, mais on s'est battu contre lui. Et finalement, il a accepté d'entendre la voix de la raison. Ça, c'est quelque chose de bien. Et puis le processus nous a également renseigné sur à quel point les Sénégalais sont attachés à leurs institutions. Je pense que les politiciens l'avaient peut-être oublié. Bon, mais maintenant... le côté finalement inquiétant, c'est que dimanche, il y aura une élection. Certains disent « Oh non, il n'y aura pas ». Non, il y aura une élection, pour moi en tout cas. Peut-être que dès lundi, on sera dans une nouvelle crise. Peut-être que la crise va changer de nature. Elle va devenir une crise post-électorale qui sera violente, avec répression. Et savez-vous quoi ? Ça va se passer dans un contexte où le capitaine aura déjà quitté le navire.
Il a perdu déjà, le capitaine ?
Non, il a perdu, c'est fini. Il va aller s'installer, il est pressé de partir. Il va aller s'installer à Marrakech, il n'y aura plus de président, parce que le Conseil constitutionnel lui a dit, le 2 avril, il faut partir. Il va partir, il y aura un président par intérim au palais, c'est-à-dire pas vraiment un président, et il y aura deux camps qui vont s'affronter. Et les enjeux sont tellement importants que ce sera à l'arme blanche, hein, quasiment. Moi, j'ai peur. Hein. Bon, maintenant, on peut avoir une élection normale. Bon, le vainqueur n'est pas contesté. Dans mon analyse, quelqu'un comme Diomaye l'emporte, ça va refléter l'état de l'opinion, tel que moi je le perçois. Et il n'y aura pas de problème.
Melo linga don, demali au sayon, hamo linga don yako sany. Melal lu la neex waxal lu la neex demal fu la neex ya ko sañ ferago nga bëgg sa xilafa amago nga wedi kilifa naka ngay doxé naka ngay waxé naka ngay défé ya ko sañ ma samba dem na te munu ma ci dara magné
Fomanane Baire wande ya kosan Gone gundaunga Hamagodara Jang warnala ya kosan Lima gizade maneyemna
Samba, l'AS dans VMDN et dans la playlist RFI de ce mois de mars. Boubacar Boris Diop est toujours avec nous pour son roman publié en français aux éditions Philippe Ray, roman que vous avez traduit vous-même, Boubacar Boris Diop, du Wolof. C'est votre second roman écrit en langue Wolof. C'est un choix...
Troisième. C'est le deuxième, oui, il y en a eu un autre, c'est ça que je veux dire. Oui.
D'accord, très bien. Ouais. Donc, c'est écrire en Wolof aujourd'hui, vous en disiez déjà un mot tout à l'heure, c'est un choix politique, c'est un choix culturel ou c'est un choix littéraire?
Les trois, vraiment les trois. J'ai toujours pensé que je devais le faire, mais je ne me suis pas senti automatiquement légitime. Toute ma formation littéraire, ça a été en français. J'ai lu très tôt plein de livres, admiré des auteurs français, européens ou américains, etc. Je ne connaissais pas tellement la production en Wolof ou en Poula, dans les langues du Sénégal. Et puis, je suis né à la Médina, quoi, au cœur de la ville. Et je ne pensais pas connaître la langue autant qu'il le fallait. Et donc, j'avais peur de rater mon coup. Et quand j'ai essayé, ça a marché.
Une histoire ne vaut que racontée par la langue de qui l'a vécu. La phrase figure au cœur du livre, c'est une phrase
C'est une phrase de la sagesse populaire.
De la sagesse populaire. Voilà, mais alors si...
Netli qui l'a mis du brome, la dache.
Mais si une histoire ne vaut que racontée par la langue de qui l'a vécu, comment on fait pour la traduire alors? Parce que ça veut dire que la traduction ne peut pas, par définition, restituer la puissance du récit original.
Ah ben oui, il faut toujours... Quand on traduit, il faut se résigner, quoi. Je pense que, ça, c'est le blues de tous les traducteurs. Ils se rendent compte qu'il y a vraiment des endroits où ils ne peuvent pas se glisser. Ils sont obligés de passer leur chemin. Ouais, ouais.
Alors, dans le roman, votre héroïne, Kinega Diao, écrit elle aussi en Wolof. Hein, elle tient une chronique en Wolof dans le journal La Torche. Elle est d'ailleurs la seule à écrire dans cette langue et ses confrères au sein du journal se moquent un peu d'elle. Hein. Et au départ, d'ailleurs, le patron du journal, Lamine Diallo, a refusé la proposition. Il s'est laissé convaincre parce qu'il a compris qu'il serait un précurseur. Donc ça le rend plutôt fier. Ouais. Vous nous dites le nom de sa chronique, Boubacar Boris Diop?
Oui, c'était Ohe Kassao Kassao. Ça veut dire, traduit en français, les paroles de la folle, quoi. C'est voilà. Comme ça que...
On l'appelle la folle, d'ailleurs, à l'intérieur de la rédaction.
Oui, ça dit, elle raconte n'importe quoi.
C'est fou d'écrire en Wolof dans un journal au Sénégal
Oui, justement. L'attitude de Lamine Diallo, le directeur du journal, mais aussi, vous en rendrez bien compte, dans une moindre mesure de Diémé Paille, hein. C'est ça.
Elle a eu du mal, elle aussi, à accepter cette idée.
Mais ça, c'est la plupart des intellectuels de formation française ont cette espèce de mépris, inné pour les langues du pays Et dans ce cas-ci, pour la langue wolof.
Alors, vous avez créé une maison d'édition qui vise justement, Boubacar Boris Diop, à encourager la création littéraire en wolof, mais aussi dans d'autres langues du continent africain. C'est d'ailleurs cette maison d'édition qui a publié donc, en wolof le roman. Ce sont les éditions Ejo.
Ejo, ça s'appelle Ejo.
C'est un mot wolof.
C'est un mot Kinyarwanda.
Kinyarwanda.
Oui, c'était un peu un clin d'œil au Rwanda, un pays qui m'est quand même particulièrement cher, quoi. Et puis le mot Ejo signifie hier et demain.
Hier et demain à la fois. Donc le même mot
à la fois.
Pour parler du passé.
Selon le contexte
et du futur.
D'énonciation, le sens change. Et c'est le titre d'un recueil de nouvelles. C'est là que je l'ai découvert en réalité. De Beyat Oumoubiyi. Son premier livre publié s'appelle Ejo. Et là j'ai. Ouais. Et puis c'est un mot assez joli. Et nous on l'a pris, quoi.
Et donc le passé, le futur et le passé, vous nous y emmenez aussi à travers plusieurs histoires dans l'histoire. Boubacar Boris Diop, vous remontez au 19e siècle, notamment à travers un personnage peu connu de l'histoire du Sénégal, Sidia Léon Diop, de son nom de naissance Sidia Naté Walla. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, dans votre roman, lui offrir à lui aussi un tombeau littéraire?
Mais parce que c'est une figure historique majeure, complètement méconnue des Sénégalais, ce qui montre bien...
Pas seulement des Sénégalais.
Mais a fortiori, Sénégalais,
alors que lui-même...
Mais au moins, si les Sénégalais ne le connaissent pas, on ne peut pas le connaître hors du pays. Et c'est une figure extrêmement importante. Et il est né en 1848. Ça veut dire que ça ne date pas de la nuit des temps. Et je pense qu'il a joué un rôle dans notre histoire et j'ai voulu le réhabiliter comme ça.
Oui, il mériterait un livre à lui tout seul.
À lui tout seul. Oui, j'ai voulu l'écrire, mais ce n'était pas facile.
Peut-être cela arrivera-t-il un jour.
Un jour, j'espère, oui. Mais j'ai vraiment voulu l'écrire, oui.
Alors, vous revenez aussi sur le destin d'une poétesse américaine, Phyllis Wheatley, dont on dit qu'elle était la première écrivaine noire de l'histoire des États-Unis. Est-ce que vous diriez, Boubacar Boris Diop, que c'est une lointaine cousine de Kiné Gadjo?
Probablement, parce que c'est Kiné Gadjo qui raconte cette histoire-là. Ce n'est pas Niébé Paye, c'est elle qui a fait...
Parce que dans la deuxième partie du roman, c'est elle
on
peut
dire,
à la première personne.
C'est la première sénégalaise à avoir publié un roman. Et c'est intéressant, dans ce débat, faut-il écrire en français en wolof, en voilà une, la pionnière, qui a quand même publié en anglais. Et puis c'est un cas assez spécial, quoi.
Donc elle a été adoptée, elle a été
absolument.
Une excellente élève à l'école. Elle a lu les grands poètes aussi, c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire. Donc,
Elle n'a même pas été à l'école, elle a tout appris à la maison. Ce sont ses maîtres qui étaient des gens simples, des gens bien, qui ont vu qu'elle avait des dispositions et qui lui ont appris. Et très rapidement, elle a appris le latin, le grec, l'anglais, etc. C'était une surdouée, quoi. Elle a publié à l'âge de 16 ans.
Boubacar Boris Diop, impossible de vous recevoir en 2024, bientôt 30 ans jour pour jour après le début du génocide rwandais, sans rappeler évidemment que vous êtes l'auteur de Mourambi, le livre des ossements, un des romans les plus puissants sur ce drame que vous avez publié en l'an 2000. Vous avez toujours en vous, en permanence, ce souvenir du génocide rwandais?
Oui, c'est normal. Dans ma bibliothèque, je crois que les trois quarts des livres portent sur le Rwanda. Le cas restant, c'est des livres soit en wolof, soit qui portent sur la littérature et la culture et la langue wolof. Hein. Donc oui, c'est en fait, je vais au Rwanda en 98, j'en reviens avec une prise de conscience linguistique plus forte. Et donc, je chemine entre ces deux thématiques, la langue wolof, la littérature wolof et le génocide des Tutsis au Rwanda. Ben, je m'y rends dans quelques jours d'ailleurs. Oui.
Pour marquer
date anniversaire. Le 30e.
Voilà, et je crois d'ailleurs que donc, vos éditions ont coédité récemment une version en langue swahili de Mourambi, le livre des ossements. Le livre est déjà sorti, il va sortir bientôt
en swahili et dans une langue, autre langue du Kenya, moins connue que le swahili bien évidemment, qui s'appelle l'ekegusihi. Voilà, donc ces disques Edjo, bon, on n'est pas seulement sur les langues du Sénégal, mais aussi sur les langues de l'Afrique. Et là, ce sera notre première expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux éditions, en Swahili et en Ekigusi, vont être préfacées par le grand Ngugi wa Thiong'o, un de mes maîtres à penser.
La littérature pour se souvenir aussi bien du Rwanda que du Diola, quoi. C'est pour témoigner ou c'est pour se souvenir aussi d'ailleurs parfois d'une façon romanesque que vous écrivez, Boubacar Boubacar.
Oui, mais en fait, pour que les victimes ne meurent pas une deuxième fois. Comme l'a dit quelqu'un, dans un génocide, le bourreau tue toujours deux fois. La première fois, c'est avec son arme, et la deuxième fois, c'est avec le silence. Voilà. Et ce silence-là peut être meurtrier. Et donc, il faut continuer à parler, à témoigner. Aujourd'hui, nous parlons des victimes du Diola, mais je trouve que c'est formidable. C'est la puissance de la littérature.
Mais la littérature, c'est une arme offensive, c'est une épée, ou c'est une arme défensive, un bouclier?
Il faut que je réfléchisse.
Allez-y.
C'est pas facile, hein? Non, moi, je dirais plutôt que c'est un bouclier. Ça nous protège contre l'ignominie, contre la honte. Et puis, ça permet en même temps de glorifier les victimes.
Merci. Merci infiniment, Boubacar Boris Diop, d'être passé dans le studio de VMDN sur RFI. Un tombeau pour Kinega Diop est paru, je le rappelle, chez Philippe Rey. Merci beaucoup.
Merci.
Man duma kunda a par sama tay dara tutul ci man may ko nung len dama di ndan nan ci mim rew seri nakuma bay wa ju ma baye dunya la ñew yeeng mak sama gaaye ko mel ni yeeng dunya duma taye dunya la ñew yeeng ay yo ak mundo am avenue bi tay ndax te sa la place of dream
de la playlist RFI de ce mois de mars. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. Demain, théâtre dans VMDN avec l'adaptation sur les planches d'un film culte des années 80, Le Cercle des Poètes Disparus, qui fait actuellement un carton à Paris au Théâtre Antoine. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.